Voilà, bonsoir. Bienvenue à tous à la soirée de la chaire Jean Rodin. Je dis quelques mots sur la mission de la chaire et puis j'introduis notre soirée. La mission de la chaire Rodin est de proposer des enseignements et d'encourager des travaux de recherche sur le thème de la charité et plus largement sur la priorité aux plus pauvres, la solidarité, la justice et la doctrine sociale de l'Église. L'axe majeur de notre chaire au Centre Sèvres est de développer une pratique théologique à l'écoute des plus pauvres en se mettant à travailler à partir de leurs paroles. Cet axe s'inscrit dans la perspective ouverte par Diaconia 2013, Servons la fraternité, et des expériences comme celle du réseau Saint-Laurent avec ses sessions de théologie. Chaque année, la petite équipe qui travaille dans la chaire, donc vous avez Grégoire Cata qui est là-bas, Grégoire il va faire un coucou à tout le monde, il y a Étienne Grieux qui est là au milieu, il y a aussi François Audinet, Frédéric-Marie Leméoté, et puis moi-même, Laure Blanchon. Nous travaillons ensemble pour donner un certain nombre de cours, de séminaires, et aussi cette soirée conférence qui a lieu chaque année. À l'occasion de l'année ignatienne, commémorant les 500 ans de la conversion d'Ignace, cette année, la chaire a choisi comme thème les jésuites et les pauvres. Quelle place tiennent les plus pauvres, les plus précaires, les exclus dans la vie et la mission des jésuites hier et aujourd'hui ? Ce soir, la parole va être donnée à deux jeunes jésuites originaires de différentes parties du monde et à Étienne Grieux, recteur du Centre Sèvres et auteur du livre « Les jésuites et les pauvres » publié en 2020, si je ne me trompe. Nous entendrons d'abord Maréus, jésuite originaire de Haïti, qui nous parlera de son expérience en Haïti avec le réseau « Foi et joie »,« Fée et allégrie », dans les projets d'éducation populaire en Haïti, à la frontière avec la République dominicaine. Puis ce sera au tour de Tobian, jésuite originaire du Tchad, qui nous parlera de son expérience au Cameroun avec les enfants de la rue au foyer de l'espérance à Yaoundé. Et en troisième, nous écouterons Francisco, jésuite originaire du Portugal, qui parlera de son expérience au Timor oriental, dans un projet d'éducation populaire, d'accompagnement social et de centre de santé dans un village de pêcheurs en périphérie de la capitale. Ce sera ensuite au tour d'Étienne Grieux de nous parler de la manière particulière de décliner l'option pour les pauvres dans la tradition jésuite à partir de son livre « Les jésuites et les pauvres » que vous pourrez acheter à la fin de la soirée à la librairie Brunet qui se tient à votre disposition au fond de la salle. Après un petit mot de transition, nous aurons en dernière partie de notre soirée un bon temps d'échange avec vous tous. Voilà, je donne maintenant la parole à nos trois jeunes amis, Maréus, Tobian et Francisco. Merci beaucoup.
Comme c'est Laure l'a mentionné, je vais parler un peu de mon expérience avec le réseau des écoles de foi et joie, ou Fé et Allegria, en Haïti, là où j'ai travaillé pendant 3 ans. Alors, je mets ici sur la carte Haïti, parce que peut-être il y a des gens qui ne connaissent pas, qui ignorent où se trouve Haïti. C'est en Amérique, dans le continent américain, plus précisément dans les pays de la Caraïbe. Et Foi et joie d'abord a pris naissance au Venezuela en 1955 par le révérend père Maria José Velas, qui est un jésuite vénézuélien. Il a fondé Foi et joie dans le but d'aider les gens ou dans des milieux très difficiles, là où il n'y a pas d'accès aux infrastructures, soit étatiques ou peut-être pas des entreprises ou des institutions privées. Il a décidé d'apporter une solution ou une réponse aux différents problèmes que confrontent les communautés locales dans des endroits comme ça. Sa mission n'est pas seulement pour le Venezuela ou son objectif, mais ça continue dans d'autres pays de l'Amérique latine et Foi et Joie est arrivé en Haïti en 2006. En arrivant en Haïti, Foi et Joie se donne pour mission de continuer l'œuvre ou l'objectif de Père Velas tout en l'adaptant à la réalité d'Haïti. Foi et Joie de 2006 à 2020 a construit ou a accompagné 17 écoles en Haïti, écoles primaires et secondaires ou lycées, qui arrivent dans des situations très difficiles, là où il n'y avait pas d'infrastructures, il n'y avait pas de présence d'État dans ces zones, surtout dans les milieux ruraux. Depuis 2006 à 2020, Foi et Joie a scolarisé environ 5 000 enfants et de tout petits ou de jeunes qui sont scolarisés à travers les écoles de Foi et Joie, et puis un centre professionnel. L'objectif d'abord de Foi et Joie, c'est de transformer la vie des gens par l'éducation. Pour cela, Foi et Joie a donné pour mission d'accompagner les communautés qui ont le plus besoin ou qui sont dans des difficultés. Moi, personnellement, j'ai travaillé dans une zone qui s'appelle Wanamet. C'est ici dans la carte, dans cette région-là. Et j'ai travaillé comme responsable de ce réseau d'écoles, qui a 5 écoles, pour Foi et Joie. J'ai travaillé avec les parents d'élèves, avec les élèves, avec des leaders communautaires, avec des personnes qui veulent s'engager pour le bien-être des communautés. Dans la zone, Foi et Joie accompagne les parents, les enfants et tous ceux qui sont dans des difficultés. Dans la zone, il y a 5 écoles et chaque école avait ou a une directrice ou un directeur avec toute sa structure pour fonctionner comme un collège normal. Et on peut constater dans les photos qui passent, chaque école a son uniforme, chaque école a sa structure, parce qu'en Haïti, toutes les écoles portent des uniformes, mais des couleurs différentes selon l'idée ou selon la volonté de chaque école ou chaque zone. Ce sont ces 5 écoles dans lesquelles moi, j'ai collaboré pendant 3 ans. Et maintenant, à part des écoles, Foi et Joie accompagne les communautés locales dans des activités de développement. Ici, on regarde sur cette photo un groupe de personnes qui est en train de travailler pour aménager un sentier. Parce que dans les écoles, là où Foi et Joie intervient, il n'y a pas d'infrastructure routière, il n'y a pas d'infrastructure de bâtiments ou d'autres choses. Donc, c'est très difficile. Foi et Joie accompagne dans tous les domaines, dans ce sens. Et pour essayer de donner une formation intégrale, non seulement aux enfants qui fréquentent les écoles de Foi et Joie, mais aux gens de la communauté aussi. Ici, ce sont les enfants qui se sont engagés dans le reboisement, dans l'affaire écologique, qui se donnent pour planter des arbres, pour essayer de faire revenir la vie. Et c'est une formation, comme je disais, c'est une formation qui cherche à transformer l'être intégralement, qui cherche à transformer toute la personne à travers l'éducation. Moi, personnellement, qu'est-ce que je faisais avec ces écoles ou avec ces gens? J'avais 2 fonctions. Une fonction qui était plus administrative, là où j'accompagnais les directeurs d'école dans l'organisation de la structure des écoles, dans la question d'organisation des formations pour les professeurs, accompagnement pédagogique, doter les écoles de matériel didactique et pédagogique, et j'accompagnais aussi dans le domaine de pastoral. Je dirais celle-là que j'ai exercé ce que je pourrais dire la spiritualité ignatienne dans le sens d'accompagner les communautés selon leurs besoins, selon leurs demandes. Pour cela, il faut aller dans les écoles, il faut aller sur le terrain, rencontrer les gens, les parents, les enfants, les leaders communautaires qui sont là, qui eux-mêmes s'engagent dans les activités avec foi et joie. Je dirais, c'était pas trop facile pendant les 3 ans que j'ai travaillé dans foi et joie ou à foi et joie dans les écoles. Pour accéder aux écoles dans des zones si difficiles, soit qu'on prend la route à pied, on marche, parce qu'il y a des écoles, on ne peut pas avoir accès en véhicule ou on ne peut pas avoir accès en moto. Pour certaines écoles, on peut arriver en véhicule, mais avec un bon 4x4 comme ça, sinon on ne peut pas, parce que la route est très mauvaise. Ou bien, si on est capable, on fait à moto, mais c'est très difficile aussi. Donc, il faut essayer de s'adapter selon la réalité de chaque zone. Qu'est-ce qui me reste après tout cela, après cette expérience? C'est les résultats qu'on pourrait trouver. Ça, c'est un groupe d'élèves qui arrivent à la classe terminale et qui ont reçu leur diplôme de fin d'études classique, ou je pourrais dire de fin d'études avant d'entrer à l'université. Ils ont eu la chance dans cette école d'apprendre quelque chose de professionnel aussi, parce que après avoir terminé les études, le baccalauréat, tout le monde ne peut pas aller à l'université, c'est très difficile. Surtout dans ces milieux, il n'y a pas d'école publique, il n'y a pas de grandes écoles privées qui donnent opportunité pour aller continuer les études. Et en dehors de tout cela, ce que moi je pourrais dire qui est ma satisfaction, ces gens qui sont très pauvres, ces gens qui vivent dans des conditions précaires m'ont évangélisé. Et ils me rendent plus humain dans ma vie. Ce n'est pas trop facile de comprendre une telle réalité lorsqu'on vient dans une famille ou dans un milieu plus ou moins aisé, où on est capable d'avoir accès à tout ou tout ce qu'on a besoin pour vivre, et d'aller accompagner ces gens, ce n'est pas trop facile. Moi, ils me rendent plus humain dans le sens, je pourrais comprendre, la pauvreté, ce n'est pas seulement une question économique, mais la pauvreté a un autre sens. Ça pourrait avoir un sens d'humanité, la pauvreté humaine. Donc, est-ce qu'on est humain? Est-ce qu'on est touché face à la réalité de l'autre? Et ces gens m'ont permis d'être touché par leur réalité. C'était pour moi un grand plaisir de vivre avec ces gens, d'épouser leur réalité et de comprendre qu'est-ce qui se passe à travers leur vie. Avec eux, j'ai eu une autre vision. Vision par rapport à la vie, vision par rapport à la mort, vision par rapport à tout ce qu'on pourrait penser comme réalité. C'est une expérience qui m'a fait grandir sur le plan humain, comme je l'avais dit, mais aussi qui m'a appris qu'est-ce que c'est l'amour, qui m'a appris qu'est-ce que c'est la haine, qui m'a appris qu'est-ce que c'est vivre avec l'autre. Malgré leur précarité, leur situation difficile dans des milieux très compliqués, ils sont des gens très riches. C'est ces gens qui apprennent aux gens qu'est-ce que c'est partage, comment on peut partager. Et l'expérience avec ces gens, pour finir, m'a permis de vivre l'Évangile de manière concrète, pas seulement la théorie. Quand je suis arrivé l'année dernière au Centre Sève, j'ai eu mon premier travail à faire avec mon accompagnateur. Et en échangeant sur la dernière activité pastorale que j'ai eue en Haïti avant d'arriver en France, j'ai parlé de ces gens-là. Et moi, ma tutrice m'a aidé à découvrir que, et dans l'expérience aussi, j'ai découvert, ces gens n'ont pas besoin, on ne peut pas partir d'une théologie, par exemple, de la foi, ce qu'on dit dans Dei Verbum, ce qu'on dit dans d'autres textes théologiques, pour prêcher ou pour parler avec ces gens. Mais on peut partir à partir de leur propre expérience, qui est vraiment une expérience de foi concrète et forte. Et à partir de là, on peut mettre le visage ou l'image qu'on veut pour transformer ce que dit l'Église, ce que dit la réalité, ce que dit les textes théologiques. Merci beaucoup.
Merci. Moi, pour ma part, je vais parler de mon expérience de régence, comme Laure l'avait dit, avec les enfants de la rue dans la ville de Yaoundé. Donc, c'est en Afrique centrale, au Cameroun. Alors, peut-être il est important aussi de partir de la définition de ce qu'on appelle enfant de la rue pour que ceux qui ne connaissent pas puissent le savoir. Les enfants de la rue sont des enfants qui quittent le toit familial très tôt et qui vivent complètement dans la rue et qui sont en rupture complète aussi avec leur famille. Donc ces enfants sont dans la rue, ils trouvent leur subsistance dans la rue, ils font toutes leurs activités dans la rue, ils dorment dans la rue, et c'est des enfants qui sont complètement en dehors du système éducatif, soit familial ou pour le problème technique. Donc, je disais, mon expérience, je l'ai faite au foyer de l'espérance à Yaoundé, au Cameroun. C'est en Afrique centrale. Alors, le foyer de l'espérance, c'est une œuvre de l'archidiocèse de Yaoundé, dont la gestion pédagogique et économique est confiée aux jésuites depuis une trentaine d'années. Et cette œuvre a pour mission de travailler pour la protection de l'enfance en difficulté, c'est-à-dire la réinsertion des enfants de la rue et aussi leur scolarisation. Alors, je disais tout à l'heure que les enfants de la rue sont des enfants qui quittent complètement le toit familial pour vivre dans la rue. Ils trouvent leur subsistance dans la rue. Ils font leurs activités dans la rue, donc ils dorment dans la rue. C'est leur milieu de vie. Alors, cette œuvre a pour mission de récupérer ces enfants, de travailler avec eux et de voir dans quelle mesure on peut les réinsérer, soit au niveau familial ou si la réinsertion familiale s'avère difficile, on se penche sur la réinsertion sociale ou encore professionnelle. Alors, quelles sont les causes de la présence de ces enfants dans la rue? Les causes sont multiples. D'abord, on peut dire qu'il y a la pauvreté qui est l'une des causes. Et aussi, dans cette région, il y a de cela quelques années, surtout avec les crises armées, les conflits armés tels que Boko Haram au nord du Cameroun et un peu au Tchad aussi, et la crise centrafricaine surtout, a fait que beaucoup de familles se sont dispersées et que les enfants se retrouvent seuls. Et beaucoup trouvent leur place dans des grands centres urbains, soit ce que je connais mieux, c'est Douala et Yaoundé. Alors, notre travail, c'est d'aller à la rencontre de ces enfants et de les faire venir au foyer pour pouvoir travailler avec eux et envisager des perspectives d'avenir avec ces enfants. Du coup, on a quatre pôles de travail. Le premier pôle, c'est le centre d'écoute qui travaille en contact direct avec les enfants dans la rue. C'est des éducateurs, un groupe d'éducateurs qui va à la rencontre des enfants dans la rue et il les récupère pour les amener au centre, mais ces enfants ne sont pas encore hébergés au centre. On a un autre pôle qui s'occupe de la stabilisation des enfants et leur scolarisation. Donc, ce pôle a pour mission d'encadrer ces enfants et de voir dans quelle mesure on peut les réinsérer dans leur famille si on arrive à trouver les traces des parents. Si la réinsertion familiale s'avère difficile, et que les enfants dépassent l'âge de 17 ans, on les envoie dans un autre pôle pour qu'ils puissent être là et travailler, faire un métier. Et en même temps, ceux qui ont la capacité de faire des études à l'université peuvent aussi le faire jusqu'à 22 ans. À 22 ans, le jeune quitte définitivement le foyer, mais il n'est pas laissé. Le foyer le suit toujours avec des petites assistances, surtout au niveau financier. Alors, notre travail aussi, c'est vrai que la question des enfants de la rue, jusque-là, a une prédominance masculine, mais ces dernières années, on constate aussi la présence des filles dans la rue. Et cela nous a amené à créer aussi une structure qui accueille les filles avec juste le centre d'écoute, mais avec des orientations spécifiques pour les filles. Donc, ces filles viennent aussi passer la journée dans le centre, mais malheureusement, jusque-là, on n'a pas encore eu des moyens nécessaires pour construire leur centre d'hébergement. Et nous travaillons aussi en collaboration avec la prison centrale de Yaoundé. On nous a confié le quartier mineur, c'est-à-dire les mineurs qui sont en prison. On organise aussi leur éducation. Ceux qui sont dans des classes d'examen et qui se retrouvent en prison en ce moment, notre travail, c'est de les préparer pour qu'ils présentent quand même les examens en étant dans la prison. Donc, c'est un travail, je dirais, en chaîne, et on a un groupe d'une trentaine d'éducateurs qui s'occupent de cela. Mais moi, personnellement, mon travail en ce temps-là était d'écouter les enfants, de coordonner les activités du centre d'hébergement. Et quand on envoie les enfants, j'ai toujours des entretiens avec eux. Et comme je disais, les crises, les conflits armés ont fait que beaucoup d'enfants se trouvent dans la rue. Ces enfants ne sont pas forcément des Camerounais. Il y a des Tchadiens parmi eux, il y a des Centrafricains. Alors, mon petit avantage est que je parle un peu l'arabe tchadien. Donc, ceux de l'extrême nord du Cameroun et les Tchadiens, avec eux, la confiance s'établit très rapidement. Tout comme les Centrafricains aussi, que je parle un peu, Sango. Donc, cela est un moyen pour moi d'établir la confiance avec ces enfants. Alors, un autre souci est que les enfants déjà réinsérés, il faut continuer à les suivre, même étant dans les familles, et le foyer obligé de contribuer quelquefois à la scolarisation de ces enfants, même étant dans leur famille. Donc, voilà en somme ce que les activités du foyer. Mais ce qui est dommage dans les causes, quelquefois on trouve aussi des interprétations, je dirais, religieuses, des pasteurs dits de l'église de réveil, qui prétendent dire à certaines familles que les enfants sont les causes peut-être de leur pauvreté. Et ces enfants sont renvoyés volontairement, expulsés de la famille par les parents. Et c'est ce qui est vraiment dommage pour moi. Maintenant, ce que je peux dire de cette expérience, pour moi, personnellement, je dirais que cette expérience du foyer de l'expérience prend en compte les deux dimensions essentielles de notre charisme jésuite, c'est-à-dire le côté éducatif, et le côté social en même temps. Et pour moi, personnellement, je dirais que le foyer de l'espérance est une œuvre qui, pour rendre témoignage vraiment de l'Évangile, nous avons besoin de vivre aussi dans ce milieu pour trouver combien le Christ nous interpelle à travers ses enfants. Donc, Pour moi, la vraie amitié avec le Christ passe aussi par une vraie amitié ou une amitié authentique avec les enfants de la rue ou avec les pauvres. C'est dans les pauvres que le Christ nous interpelle. Et cette expérience, depuis que je suis passé au foyer, ma vie de jésuite avant ma régence n'est plus celle d'après ma régence, parce que toutes mes perspectives d'avenir sont orientées pour donner une réponse à ce problème des enfants de la rue que je considère comme un dysfonctionnement social et en même temps une injustice aussi à l'égard de ces enfants. Donc notre promotion de la justice doit aussi passer par le fait qu'on doit lutter pour que ces enfants retrouvent leur dignité dans la société. Et c'est ce que, je dirais, le Christ attend de nous, non seulement comme jésuites, mais comme chrétiens tout court. Voilà en somme ce que je peux dire de mon expérience de régence avec les enfants de la rue au foyer de l'espérance. Merci.
Donc, tout d'abord, excusez-moi, mais je ne suis pas francophone. Donc, mon français, c'est pas parfait. Mais quand même, je vais essayer de partager quelque chose de mon expérience ici, à Timor. Timor-Leste, c'est le nom officiel. Timor-Oriental, c'est un pays très inconnu, en fait. Un petit pays d'Asie, du Sud-Est. Situé au milieu des îles indonésiennes. C'est un pays très, très jeune parce que l'indépendance était en 2002. Donc c'est un des pays plus récents du monde et plus pauvre aussi. Et cette indépendance était 24 ans après cette indépendance, il y avait une invasion d'Indonésie pendant 24 ans et qui a fait, selon l'estimation, entre 200 000 et 300 000 morts. Ça veut dire un peu un tiers de la population. Donc, les blessures de cette guerre-là sont encore très vraiment présentes dans l'imaginaire collectif du peuple timorais. Donc, il faut quand même travailler avec ça. Pas seulement avec la pauvreté. Alors, une autre chose intéressante par rapport à la culture du pays, c'est que c'est le résultat d'un grand mélange entre le christianisme apporté par les Portugais et aussi l'animisme d'influence soit malayo-polynésienne du Pacifique et du Sud austronésienne. Donc c'est vraiment un peuple avec des caractéristiques vraiment uniques. En 2012, les jésuites de Timor, la plupart missionnaires, ils ont fait un discernement pour comprendre comment est-ce qu'ils pouvaient aider le pays à se développer, non? Un pays très jeune. Non seulement pour guérir les blessures de la guerre, mais surtout pour aider à ouvrir un nouveau monde globalisé. Donc, ils ont décidé de créer un projet d'éducation qui comprend deux institutions complémentaires, c'est un lycée et un centre de formation d'enseignants, de professeurs, qui est situé justement à côté de la capitale, dans un village très pauvre, d'une zone rurale de Timor. Alors, je ne sais pas pourquoi mon supérieur portugais m'a envoyé à participer à ce projet-là. Je ne sais pas pourquoi. Jusqu'à maintenant, je ne sais pas pourquoi, mais il m'a envoyé. Et je dirais que dès mon arrivée à Timor, que j'ai compris qu'il fallait tout d'abord apprendre la langue pour quand même entrer dans la culture. parce que si on ne connaît pas la langue, on peut pas connaître la culture vraiment. Et pour moi, c'était vraiment un premier signe de pauvreté, mais de pauvreté personnelle. Je ne sais pas si vous avez l'expérience d'apprendre une nouvelle langue. Ça, c'est quand même un signe de pauvreté personnelle et il faut avoir quelque chose d'humilité quand même. Donc, j'ai été envoyé dans un village de montagne, très isolé à Timor, dans une paroisse jésuite où il y a des jésuites missionnaires. Donc, j'ai vécu dans ces maisons-là, justement pour apprendre la langue, pour apprendre la culture et pour voir comment est-ce qu'ils regardent le monde. Et c'est intéressant parce que, par exemple, dans la langue locale, qui s'appelle Tetum, le mot pour dire pauvre est kik. Et pour dire kiak. Et pour dire petit est kik. Donc c'est presque le même mot. C'est quand même intéressant ça. Donc, c'était une première approche de la pauvreté locale, c'est vraiment matériel, mais aussi une approche de ma propre pauvreté parce que il m'a obligé à changer mon regard de quelqu'un occidental, comme nous, un peu arrogant, non, de celui qui vient apporter quelque chose de mieux, pour comprendre qu'il y avait une sorte de richesse dans la pauvreté de ces gens-là. Donc, c'était une sorte de première conversion personnelle, que dans la vie simple des gens ou de celui qui n'attend pas plus que ce qu'il y a, vraiment. Donc, c'était une première sorte de conversion personnelle. Et après, donc, j'ai appris la langue, la culture et tout cela. Et finalement, j'ai commencé à travailler dans ce projet-là. Donc, vous pouvez voir, c'est vraiment un projet. Il y a deux établissements scolaires, justement au milieu de la forêt et de la mer. La mer, c'est de ce côté-là. Alors, ce projet a été créé pour offrir vraiment une éducation de qualité aux enfants de Timor oriental, notamment ceux issus de familles très pauvres. Donc voilà. Donc on pensait que serait vraiment facile d'attirer les gens à venir étudier avec nous, mais c'était pas le cas. Donc c'était un échec en fait, parce que il y avait une certaine méfiance. Surtout parmi les familles les plus pauvres, locales, du village. Parce que pour eux, en voyant ça, ils pensaient, bon, ça c'est pas pour nous, c'est pour les riches. Ce sont des beaux bâtiments propres, tout ça. Ça c'est pas pour nous, c'est pour les riches, c'est pas pour les pauvres. On peut pas payer ça, on peut pas étudier ici, avec vous. Donc pour nous, c'était vraiment un échec. Donc, les gens locales ne voulaient pas étudier avec nous et les gens de la capitale, ils ont commencé à venir et prendre la place des gens, des enfants pauvres. Et ça a été vraiment pour nous un premier échec. Donc il a fallu rentrer chez les gens locaux et expliquer, bon, ça c'est pour vous, il ne faut pas payer, etc., etc., etc. Et ça a pris quand même 4-5 ans. Bon, et aujourd'hui, aujourd'hui, il y a quand même un ratio de 50% d'élèves qui viennent de la capitale, 50% d'élèves pauvres, pour qui il y a des scholarships, des bourses d'études. Donc voilà. Donc ici, pour promouvoir un peu l'égalité, c'est interdit l'argent dans l'école, c'est interdit les portables, et tout le monde porte un uniforme. Donc, comme ça, nous sommes tous afin de décourager la discrimination, etc. Et une autre, la nourriture est distribuée quotidiennement, chaque jour, dans la cantine scolaire. Comme ça, au moins une fois par jour, chaque élève a accès à un repas. Et ça, c'est vraiment important, plutôt pour les plus pauvres. Tu peux continuer. Merci. Mais bon, et en plus, qu'est-ce qu'on voulait vraiment d'aller bien au-delà de l'enseignement lui-même. Donc les jésuites, ils ont construit dans le même complexe que l'école un centre de santé. Et ça a été vraiment important que c'est ici. Oui, voilà. ça a été vraiment important plutôt maintenant pour les campagnes de vaccination. Et ici, ce sont des médecins australiens qui viennent pour regarder les yeux des enfants, les ophtalmologistes. Et en plus, les jésuites, ils ont aussi construit des points d'eau pour que la population puisse facilement avoir accès à l'eau potable, que c'est un problème de la région. Et finalement, comme c'est un village de pêcheurs, les jésuites ont essayé de créer une sorte d'association locale pour stimuler aussi le commerce local. Voilà. Donc, toute une sorte d'activité dans le même projet quand même. Pour moi, que je regarde ça un peu comme un étranger, même en participant, ça me rappelle les réductions du Paraguay, les réductions du Paraguay. C'est une sorte de village créé pour les jésuites, pour les indigènes en Amérique du Sud. Voilà. Bon, au plan personnel, je peux dire que ce qui m'a le plus marqué, c'est la façon de voir le monde plus contemplatif que les gens locaux qu'ils ont par rapport à nous, à notre façon plus rationnelle de voir le monde. Donc, c'est le pouvoir des choses simples, des pauvres, qui aident vraiment à vivre l'Évangile d'une manière très naturelle, plus naturelle que je ne l'ai jamais ressenti ici en Europe. Donc là, je me sentais partie prenante d'un projet et d'une vision du monde qui a privilégié la vie plutôt que le travail. Donc c'est pourquoi que le retour ici, au Portugal, en Occident, a été assez difficile pour moi. Justement parce qu'il me manque cette façon contemplative de regarder le monde, que je pense cette sorte de sagesse ancestrale quand même, qu'il y a chez les pauvres, je pense. Chez les... Oui, c'est ça. Qui regardent le monde avec une sorte de bonté, etc. Une sorte d'innocence. Donc, voilà, c'est un peu ça que je voudrais partager avec vous. Merci.
Merci beaucoup à tous les trois. Viendra bientôt le moment d'échanger avec vous. Et maintenant, la parole est à Étienne Grieux à partir de son livre « Les Jésuites et les pauvres ».
Voilà. Ben, merci beaucoup Laure. Et puis merci, un très très grand merci à Marius, Tobian et Francisco pour ce que vous nous avez partagé. Ce qui me frappe beaucoup en vous entendant, et vous l'aviez dit aussi peut-être encore plus fortement dans la réunion préparatoire qu'on a eue, c'est à quel point les expériences que vous avez faites vous ont marqué. Là, on a entendu comment vous avez tout ce que vous avez reçu de la part des gens que vous avez rencontrés au cours de ces années-là. Et vous en avez parlé aussi comme d'une expérience de foi, une expérience humaine. Et Francisco parlait d'un autre regard sur le monde, plus contemplatif. Voilà, on voit bien la très grande richesse de cette expérience-là, il me semble. Voilà. En partageant ce que vous avez dit là, je trouve que ça montre l'importance de ce qui se passe dans la rencontre et dans le chemin fait avec des personnes les plus modestes. Et qu'à leur contact, il y a quelque chose de la bonne nouvelle qui nous est donnée. Voilà. Et ça, on peut dire que notre vie en est vraiment transformée. Voilà. Alors, Je reviendrai sur tel ou tel point de ce que vous avez dit dans la présentation que je dois faire maintenant de mon petit bouquin qui s'appelle « Les Jésuites et les pauvres ». Et je vais le présenter très rapidement. Et puis après, on aura un temps d'échange avec vous trois aussi. Hein. Voilà. Ouais. Je commencerai en disant que les Jésuites, ils ont la réputation de s'adresser aux élites. Si bien qu'on peut se demander si une relecture de leur mission à la lumière du souci des pauvres n'a pas quelque chose finalement d'artificiel. Voire même, on pourrait le lire comme la justification a posteriori des options qui ont été prises par la compagnie, par les jésuites, sous le gouvernement de Harupé, dans l'après-concile, des options qui représenteraient dans la tradition de la compagnie en réalité des nouveautés qui ne seraient pas vraiment fidèles à la grande tradition de la compagnie. Voilà. Voilà donc la question avec laquelle on peut partir. Est-ce que ça fait vraiment partie de la vocation jésuite que ce souci pour les pauvres ? Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on a bricolé comme ça dans l'après-concile ? Voilà. Par rapport à cette question-là, la première chose qu'il me semble qu'on peut dire, c'est que, en réalité, oui, il faut le reconnaître, les jésuites s'adressent souvent aux élites. Tout au long de leur histoire, ils l'ont fait. Et je crois que c'est un élément important de leur mission. Mais ce n'est pas le seul non plus. Voilà. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que lorsque les jésuites s'adressent aux élites, je crois que ça s'enracine sur un souci des pauvres. Et que si l'on veut être fidèle à la tradition de la compagnie, j'ajouterais pas seulement un souci, mais une vraie proximité avec eux. Et quand on manque dans l'histoire de la compagnie cette proximité, alors le travail auprès des élites risque de tourner sur lui-même et de devenir quelque chose de mondain. C'est quelque chose qui est toujours un risque possible dans notre mission, je crois. À partir de là, je dirais que dans la compagnie, chez les jésuites, on a peut-être une manière particulière de vivre ce que, à partir du XXe siècle, on appellera l'option pour les pauvres ou la priorité aux plus pauvres. C'est une manière de le vivre très certainement différente de celle, par exemple, des franciscains, des ordres hospitaliers, des frères de Saint-Jean, des lazaristes, de la famille pradosienne ou des fils de la charité. Voilà d'autres, beaucoup d'autres manières de vivre l'option pour les pauvres. Voilà. Alors, ça serait quoi cette manière jésuite de vivre l'option pour les pauvres ? Je vais la présenter en trois temps. Tout d'abord, à partir d'un regard sur le fondateur, Ignace de Loyola. Car je crois que son expérience et sa manière de se positionner ont été transmises, on peut dire, à la compagnie dans la suite de son histoire. Et j'essaierai de montrer que les options faites par Ignace sont en grande cohérence avec l'expérience spirituelle proposée dans les exercices. Voilà, donc ça s'enracine aussi là-dessus, je crois, sur cette expérience spirituelle. Ensuite, dans un deuxième temps, je vais esquisser, mais à très grands traits, différents types de présence au milieu modeste qu'on a pu voir dans l'histoire de la compagnie, à travers quelques grandes figures. Des choses qui ressemblent à ce qu'aujourd'hui on appellerait la pastorale populaire, avec des figures comme Saint François Xavier, ou Jean-François Régis, ou Julien Monnoir. Un deuxième type, ça serait le souci des plus pauvres, vraiment, des plus maltraités et humiliés. Et là, ça serait la figure de Pierre Claver, qui travaille avec les esclaves en Amérique latine. Mais aussi, une page de l'histoire des jésuites en France qui est peu connue, celle de leur présence au bagne, parce que pendant plusieurs décennies, les jésuites ont accompagné les bagnards. Et pas mal d'entre eux sont morts avec les bagnards, aussi en Guyane notamment. Voilà. Et puis je poserai la question du souci des jésuites dans leur pastorale de transformer les règles du jeu. Et pour ça, parfois, de modifier le droit ou de vouloir agir sur la culture ou sur les structures. Voilà. Et pour ça, je prendrai l'exemple des réductions du Paraguay, et puis une très belle figure de jésuite allemand du XVIIe siècle, Friedrich P. von Langenfeld, qui a pris la défense des sorcières. Voilà, il y a eu une sorte de vague de chasse aux sorcières qui a fait entre 15 000 et 25 000 morts en Allemagne, une sorte de crise de folie. Hein, et lui s'est élevé extrêmement vigoureusement contre cela. Hein. Voilà. Dans un troisième temps, je poserai la question de que devient cette tradition au XXe siècle, avec notamment le tournant que marque le généralat du père Haroupé, on en a parlé parfois même comme d'une sorte de refondation de la compagnie. Voilà. Donc, que devient la figure jésuite de l'option pour les pauvres à l'heure des analyses sociales et d'une conscience élargie de notre responsabilité dans le champ politique tel qu'on peut l'avoir au XXe siècle. Et je pense que ce qu'a fait Haroupé, c'est de transformer ça dans une redéfinition de la mission jésuite. Voilà. Donc, premier temps, sur les choix d'Ignace et leurs effets sur la compagnie. Sur Ignace, je m'arrête sur trois points. Le premier, Ignace, quand même, il fait partie de l'élite de son temps. On le présente parfois comme un soldat, parfois comme un petit page un peu perdu à la cour des grands, parfois comme un pèlerin solitaire. En fait, Ignace, c'est un politique. C'est vraiment un politique. Et quand il est frappé par un boulet de canon au siège de Pamplune, on commence à le savoir parce qu'on est dans l'année qui fait mémoire de ça, hein. C'est un homme, à ce moment-là, qui est en pleine ascension, qui est en train de trouver sa place parmi les grands de son temps. Il est le secrétaire de l'équivalent du ministre de l'économie du Royaume d'Espagne. Si on voulait transposer ça aujourd'hui, on pourrait dire Ignace, c'est quelqu'un qui a fait l'ENA et qui occupe une place dans un des plus prestigieux cabinets ministériels. Voilà. Et pour enfoncer le clou, on doit ajouter qu'Ignace n'a jamais renié cette appartenance à l'élite de son temps. La biographie notamment de Garcia Hernán, qui est parue relativement récemment, a très bien éclairé cet aspect du personnage en montrant que, après sa conversion, Ignace reste tout au long de son histoire en relation avec plein de personnes influentes qui appartiennent à l'élite de son temps. Ce sont sans doute pas les mêmes qu'avant sa conversion, ni non plus pour les mêmes motifs, ça c'est clair, mais en tout cas, Ignace ne s'est jamais coupé des grands. Il est resté sans cesse en dialogue avec eux et en interaction avec eux. Et en ce sens, il reste profondément un politique, il me semble. Quelqu'un qui a toujours eu le souci des acteurs principaux de son temps, afin de les rencontrer, sans doute de chercher de comprendre avec eux les problèmes auxquels le monde est confronté, et aussi de les conseiller, et de chercher avec eux les voies du Seigneur, et de partir, de les renvoyer vers leurs responsabilités. Je pense que c'est un point fort de la vie d'Ignace. Mais en même temps, et ça c'est mon deuxième point, à partir de sa conversion et jusqu'à la fin de sa vie, Ignace fréquente les pauvres de son temps. Très souvent, il loge dans les hôpitaux, qui sont des lieux où les malades, mais aussi et surtout des pauvres, trouvent refuge, et il les côtoie de près quotidiennement durant les premières années de sa conversion. Il partage avec eux vraiment la condition de mendiant. C'est vraiment un mendiant pendant plusieurs années. Jusqu'à ce qu'il s'organise autrement afin de pouvoir étudier. C'est au moment où il étudie à Paris qu'il quitte vraiment cette condition de mendiant. Voilà. Et quand les premiers compagnons débutent un apostolat ensemble, quand ils sont à Venise, ils font de l'apostolat de plein vent et ils vivent dans cette même proximité avec les pauvres, comme Ignace l'avait fait dans les premières années de sa vie. Et de même, à Rome, dans les tout débuts de la compagnie, ils garderont une très forte proximité avec les pauvres. Notamment, il y aura l'épisode d'un hiver très rigoureux où ils organiseront la solidarité dans la ville de Rome. Voilà. Et puis, Ignace, dans les années qu'il passe à Rome, gardera toujours un apostolat auprès des prostituées. Et il promeut une forme nouvelle d'institution qui facilite leur réhabilitation. Parce que jusqu'à présent, en gros, la seule voie de sortie de la prostitution, c'était la vie religieuse. Voilà. Et Ignace, il va promouvoir d'autres voies de sortie de la prostitution, notamment vers le mariage ou vers le travail, des choses comme ça. Voilà. Cette proximité avec les personnes pauvres, on la retrouve chez les premiers compagnons. Ceux qui sont envoyés comme experts théologiens au Concile de Trente sont invités, par une lettre d'Ignace qu'on a gardée, à visiter régulièrement l'hôpital et vraiment à associer les personnes qu'ils rencontrent à l'hôpital aux travaux du Concile de Trente en leur demandant de prier pour le Concile, etc. etc. Voilà. Et un historien comme John O'Malley écrit dans son livre « Les premiers jésuites », je le cite, « Où qu'ils arrivent, les jésuites se dirigent habituellement vers les hôpitaux. Et Marc Rotzart, un autre jésuite, je le cite, « Quand il parle des ministères qui sont propres à la compagnie, les jésuites alignent, donc les premiers jésuites, hein, alignent sermons, catéchèses, proclamation de la parole, confession, conversation spirituelle, exercice spirituel, visite et réconfort aux malades et aux prisonniers, réconciliation et pacification, aide et réconfort aux pauvres, aux orphelins, aux prostituées, aux mendiants, aux forçats, etc. Un jésuite au temps d'Ignace n'est pas quelqu'un qui ne pratiquerait qu'un de ces ministères, mais quelqu'un qui en pratique plusieurs, comme Ignace à Rome. Ainsi feront tous les premiers jésuites dans les différentes parties d'Europe. » Fin de citation. Et cela passera dans les constitutions de la compagnie, où la pastorale auprès des roudes, c'est-à-dire des gens de monde populaire, et des enfants, est recommandée à tous les jésuites au point de figurer dans la formule des vœux définitifs des jésuites. Voilà. Troisième point. Si l'on cherche maintenant quel est le ressort de ce type de pratique, je crois qu'on peut avancer une hypothèse. Le parcours qu'un retraitant est invité à faire dans les exercices fait bouger des choses en profondeur en lui. Et tout d'abord autour de la contemplation de la croix et du Christ humilié. Le retraitant est invité à regarder cette réalité de la croix et à s'approcher d'elle. Et il est invité notamment à parler avec le crucifié et à avoir avec lui une parole personnelle et vraie sur sa propre histoire. Loin d'être réduit à une simple image de la souffrance, le crucifié devient celui à partir duquel une parole vraie peut jaillir. Et puis, invité à méditer sur son propre péché à la lumière de la croix, le retraitant peut découvrir que l'injustice subie par le Christ n'est pas sans rapport avec le péché, avec son péché propre, et aussi avec celui du monde, auquel il participe lui aussi, le retraitant. À partir de là, une liberté nouvelle peut être trouvée par le croyant, par celui qui, le retraitant. Sa rencontre avec Dieu passe par la figure de l'humilié, et au contact du Christ en croix, il fait une expérience de vérité et de liberté. Désormais, il sait que ceux qui vivent les situations d'opprobre et de mépris peuvent renvoyer à la figure du Christ humilié, et que comme le Christ humilié, eux aussi, sans doute, subissent quelque chose du désordre du monde, du péché du monde, avec lequel mon propre péché n'est pas sans rapport. Voilà. Donc, le retraitant pourra être amené à faire le lien entre les désordres du monde, son propre péché personnel, ce que subissent les pauvres et ce qu'a subi le Christ. Voilà. Et comme cette rencontre du Christ humilié, c'est aussi une expérience pour lui de vérité et de liberté, c'est aussi à partir de là, ça pourrait être aussi un point de départ pour sa propre évangélisation et son chemin d'évangélisation. Voilà. Le positionnement vis-à-vis des pauvres qu'Ignace propose et que vivent les premiers jésuites entre donc, je crois, en résonance avec l'expérience spirituelle que proposent les exercices. Et il faudra ajouter que c'est repris aussi dans les textes qui régissent la vie de l'ordre. Telle est la proposition de lecture que j'avance. Et si cela s'avère vrai, ça veut dire que ce souci des pauvres n'est pas un élément conjoncturel de l'histoire de la compagnie, mais que ça fait partie de sa structure même et de la structure, disons, de l'expérience spirituelle qui est proposée aux jésuites. Voilà. Et à ceux qui se nourrissent de cette tradition. Voilà. Alors maintenant, ça c'était un premier point pour dire un peu sur quoi tout ça se fonde. Hein. Maintenant, ce que je vous propose rapidement, c'est de parcourir à grands traits, des grandes figures, de passer par quelques grandes figures de l'histoire de la compagnie pour voir à quoi ça a donné lieu dans l'histoire tout ça. Hein. Et de fait, ça part dans plusieurs directions. Je repère donc trois directions différentes. La première direction, c'est le souci de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un apostolat populaire. C'est le souci que la bonne nouvelle soit annoncée au petit peuple, aux paysans, aux artisans, ceux qui habitent les campagnes et les faubourgs des villes. Et le terme de pauvre ici ne désigne pas les populations touchées par la misère, pas forcément, disons, mais simplement la part la plus modeste de la population, celle qui en général n'a pas voix au chapitre dans les grandes décisions qui la concernent, celle qui est aussi souvent en situation de précarité et qui sera toujours plus impactée que les autres par les conflits, les guerres, les épidémies, les crises économiques. Et pendant une très large période de l'histoire de l'Europe, ça sera la majorité de la population. Les jésuites ont été des acteurs de premier plan dans la pastorale populaire. Une figure comme celle de saint François Régis l'atteste, mais aussi avant lui saint François Xavier, dans la première partie de sa mission en Inde et aux Moluques. Et puis bien sûr une figure comme celle de Julien Monnoir, l'apôtre de la Bretagne, mais beaucoup plus largement, il est bon de se rappeler que beaucoup de jésuites, notamment ceux qui travaillaient dans les collèges, étaient invités chaque année à prendre du temps pour ce qu'on appelait les missions populaires ou les missions de l'intérieur. Donc ils allaient dans les villages faire de la catéchèse, prêcher, confesser, etc. etc. Voilà. Ça les mettait au contact des gens tout simples. Voilà. Il me semble que parmi les différents types d'engagement auprès des pauvres, c'est peut-être celui-là aujourd'hui qui, en Europe au moins, est le plus délaissé par la compagnie. Voilà. C'est au moins une hypothèse que j'avancerai. Deuxième figure de présence aux pauvres, il s'agit cette fois-ci du souci des plus pauvres, des personnes qui sont en situation d'humiliation et dont la dignité souvent est touchée par leurs conditions de vie. Ici, la principale figure, ça serait sans doute celle de Pierre Clavert, qui a fait un énorme travail auprès des esclaves en Amérique latine et qui avait mis au point toute une pastorale auprès de ces esclaves. Mais on pourrait ajouter aussi la pastorale des détenus, des condamnés à mort et des prostituées, la présence au forçat, avec cette belle page de l'histoire de la compagnie en France, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, de la pastorale des bagnards, où les jésuites, dans un premier temps, sont allés pour des temps forts, des temps de mission, dans les bagnes de Brest, de Toulon et encore un autre, dont je ne me souviens plus, là. Et puis après, ont accompagné les fondations des bagnes en Guyane, des fondations qui se sont révélées au départ calamiteuses au point de vue sanitaire. Il y avait certains groupes où il y a 90% des bagnards qui mouraient au bout de un an, de la fièvre jaune notamment. Et les jésuites les ont accompagnés et un bon nombre sont morts avec eux. Voilà. Ce que je trouve assez beau en voyant ces expériences-là, c'est qu'ici les jésuites sont au contact de ceux qui sont vraiment méprisés, de ceux dont la voix n'est plus entendue, qui font peur aussi souvent. Et ils osent s'en approcher, eux qui sont des hommes pétris de culture. Et finalement, on s'aperçoit que la rencontre a lieu. Et ça, c'est très beau, je trouve. Dans les lettres que les jésuites écrivent depuis les bagnes où ils sont, ils disent comment ils ont rencontré des croyants qui les ont surpris par la vigueur de leur foi. Voilà. Et voilà. Troisième figure. Il ne s'agit pas ici tant d'une figure très précise qu'un trait, une caractéristique qu'on va retrouver souvent dans la présence des jésuites aux personnes en grande précarité. C'est le souci, on pourrait dire, de modifier les règles du jeu. Et c'est ici qu'on retrouve le côté politique d'Ignace. C'est-à-dire quelqu'un qui dit « mais les règles du jeu, on peut les changer. Elles ne sont pas inamovibles. Voilà. » Et donc de faire bouger les structures. Concrètement, ça va se traduire comment ? Ça va se traduire parfois par le souci de changer la loi. Parfois par le souci de créer des institutions. Parfois par un souci de promouvoir une éducation et de travailler la culture. Ou bien d'avoir une approche, qui touche tous les domaines à la fois, comme dans l'exemple des réductions, où c'était aussi ce que disait Francisco au sujet de l'exemple du Timor. Voilà. Un exemple, les premiers jésuites, voyant l'effet désastreux de la détention sur ceux qui la subissent, cherchent à modifier la pratique de l'époque qui conduisait les personnes endettées en prison, et cherchent à faire modifier cette règle juridique en cherchant d'autres moyens de compenser le dommage que la prison. Parce qu'une fois qu'on est en prison, on peut encore moins rembourser ses dettes, et on s'en sort plus du tout. Voilà. Ouais. Mais là où dans l'histoire de la compagnie, le souci de modifier les règles du jeu s'exprime dans toute sa force, c'est peut-être dans l'épisode des réductions du Paraguay. Et c'est une page d'histoire qui s'étend sur plus d'un siècle et demi, donc c'est quelque chose de vraiment très important en Amérique latine. Les jésuites obtiennent pour les Indiens qui vivent dans les réductions une dispense de l'encomienda, qui était ce système qui contraignait les Indiens à se mettre au service du colonisateur pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois de l'année, et qui souvent provoquait leur tombée en esclavage. Et plus tard, ils obtiendront aussi le droit d'armer les Indiens, qui sera une grande première en Amérique latine, qui leur permettront de résister aux chasseurs d'esclaves qui viendront du Brésil. Plus largement, je crois qu'on peut dire que le mode de vie dans les réductions constitue un compromis entre les structures sociales traditionnelles des Indiens et les contraintes liées à la colonisation. En tout cas, à travers cela, les jésuites ont sans doute tenté de faire naître une société qui soit profondément imprégnée par la foi chrétienne. Et c'était peut-être même de leur part le projet, on pourrait dire, d'en remonter aux Européens, en leur montrant que des Indiens, en plus des Indiens anthropophages, donc ceux qui étaient tout en bas de l'échelle des peuples qu'on avait dans notre tête à l'époque, que ces personnes-là pouvaient, en matière de vie christianisée, faire mieux que les Européens. Je crois que c'était ça. C'était un élément important de ce projet des réductions. Voilà. En tout cas, ça a donné lieu à vraiment quelque chose qui a beaucoup marqué, finalement, et qui a beaucoup fait signe dans toute l'histoire, même de l'Europe, parce que ça constitue une sorte d'utopie aussi, ces réductions, qui vivaient, par exemple, sans monnaie, alors qu'il y avait une économie assez complexe et assez développée. Voilà. Mais une autre figure de jésuite qui a peut-être poussé avec le plus de vigueur pour une réforme des pratiques judiciaires sur un point très précis, c'est ce Friedrich P. von Langenfeld dont je parlais tout à l'heure, un intellectuel qui est prof de Bible et de morale et qui est un poète. Et certains de ses poèmes continuent à être chantés dans les églises en Allemagne. Voilà, on l'appelait, son surnom c'était le rossignol chantant. Voilà. Ce jésuite s'est fait le défenseur des sorcières en Allemagne au XVIIe siècle. Voilà. Tout simplement parce qu'il a été amené à les confesser, ces femmes. Et très vite, il s'est aperçu qu'il était convaincu de leur innocence et que leurs aveux qui avaient été arrachés sous la torture, en fait, ne valaient rien du tout. Il s'est aperçu du caractère complètement absurde et fou de ce qu'on était en train de vivre avec ces femmes-là. Et il a dénoncé très vigoureusement ces pratiques en écrivant un livre qui les dénonce. Il s'y opposait si vigoureusement qu'il a failli être renvoyé de la compagnie. Voilà. Mais le père général de l'époque l'a défendu. Voilà. Cette sensibilité au droit, à la culture, aux structures, aux manières de, disons, d'organiser, enfin de remodeler ce qui constitue les règles du jeu, on peut dire. Je crois qu'on la doit à ce positionnement d'Ignace, qui, à partir de sa conversion, reste en proximité avec les plus modestes, mais en gardant un contact très régulier avec les responsables et les autorités. Et du coup, se sent un devoir, disons, de faire tout ce qui est possible pour changer ce qu'on peut changer dans les règles du jeu, de façon à éviter tout ce qui amènerait des personnes à vivre dans des conditions dégradantes. Voilà. Dans la même ligne, on pourrait signaler une sensibilité des jésuites à la dimension institutionnelle. Souvent, quand ils font des choses, ils cherchent à leur donner forme instituée, quitte à innover et à promouvoir de nouvelles figures, comme par exemple celle qu'Ignace soutient à Rome pour les prostituées, dont j'ai dit deux mots tout à l'heure. Ce n'est pas lui qui l'a inventée, mais qui l'a essayé de la promouvoir, au moins. Voilà. Voilà. Alors, ce qu'on vient de voir sur cette sensibilité, je crois que là, on touche peut-être une spécificité de la manière jésuite de décliner pour les pauvres, avec cette sensibilité, cette attention à changer les règles du jeu. Je crois que ça nous achemine, disons, c'est à partir de là qu'on peut comprendre ce qui s'est passé sous le généralat du père Arupe. Et c'est là-dessus que je vais terminer. Sous le généralat du père Arupe, c'est-à-dire après le Concile Vatican II, les jésuites font un gros travail et ils redéfinissent leur mission. Je vous en redonne quelques formulations. La mission de la Compagnie de Jésus est le service de la foi, dont la promotion de la justice constitue une exigence absolue en tant qu'elle appartient à la réconciliation des hommes demandée par leur réconciliation avec Dieu. Ça, c'est un extrait du décret 4 de la 32e Congrégation Générale. Et vous voyez que de cette manière-là, la mission de la Compagnie comprend deux versants inséparables, le service de la foi et la promotion de la justice. Tous deux ont comme ressort et comme visée la réconciliation qui nous est offerte en Christ et qui touche donc aussi les rapports des humains entre eux. Alors les commentateurs soulignent que la justice en question, ce n'est pas la définition étroite d'un calcul en vue de distribuer équitablement à chacun avantages et rétributions, ou bien droits et devoirs. Mais ce dont il s'agit, c'est la justice de l'Évangile. Une justice qui est capable aussi d'appeler chacun par son nom et qui a donc une dimension active et créatrice. Cela dit, la justice de l'Évangile ne pourra jamais faire l'impasse sur la justice qui calcule. Elle dépasse le calcul, c'est vrai, mais si elle croyait pouvoir s'en dispenser, eh bien ça serait une caricature de justice de l'Évangile aussi. Alors ces textes de la 32e Congrégation Générale ont été complétés par d'autres qui insisteront notamment sur l'option pour les pauvres, sur l'importance de la dimension de la culture, sur l'importance du dialogue, notamment du dialogue interreligieux, de la communication, et puis sur d'autres points d'injustice, on pourrait dire, comme la question de la place des femmes, la question de la condition des réfugiés et des déplacés, la dimension écologique aussi. Tout ça, ça apportera des notes complémentaires. Mais en tout cas, jamais ne sera remis en cause l'élection. Je crois qu'on peut vraiment parler d'une élection qui a été faite dans l'après-concile par la Compagnie et qui a redéfini sa mission en donnant une place très importante à la promotion de la justice. Voilà. On peut noter aussi qu'au fil des textes de la Compagnie, il est de plus en plus question de recevoir de la place des plus vulnérables. Et je vous lis un extrait de la dernière Congrégation Générale, la 36e, qui a eu lieu en 2016. Voilà. Les pauvres nous invitent à revenir constamment à ce qui est essentiel dans l'Évangile, à ce qui donne réellement la vie, et à reconnaître ce qui nous alourdit. Comme nous le rappelle le pape François, nous sommes appelés à découvrir le Christ dans les pauvres, à prêter notre voix à leur cause, mais aussi à être leurs amis, à les écouter, à les comprendre et à accueillir la mystérieuse sagesse que Dieu veut nous communiquer à travers eux. Une telle attitude va à l'encontre des comportements habituels du monde où, comme dit Coëlette, la sagesse du pauvre est méprisée et ses paroles ne sont pas écoutées. Avec les pauvres, nous pouvons apprendre ce que veut dire espérance et courage. Voilà. Ça, ce sont des notes qui prennent de plus en plus d'importance à partir des textes de la 32e Congrégation Générale jusqu'à la 36e, où on voit, je trouve ça intéressant comme évolution, qu'il ne s'agit pas seulement de lutter pour les pauvres, ni seulement d'être avec eux, mais aussi d'apprendre de leur part. Voilà. Et il me semble qu'on l'a très clairement entendu à travers vos trois interventions. Et c'est apprendre aussi bien au plan humain, comme vous l'avez dit, mais aussi au plan spirituel, et se laisser évangéliser, recevoir autrement l'évangile de leur part. Voilà. Alors, à travers ces choix faits dans l'après-concile, la compagnie est-elle fidèle à sa vocation? Les textes, notamment ceux de la 32e, ont été beaucoup discutés. Ils ont été adoptés à la quasi-unanimité, mais parfois contestés ensuite, notamment par le magistère romain, qui craignait une implication trop forte et exclusive dans des questions sociales, qui seraient dissociées justement de l'annonce de l'Évangile. En réalité, le ressort est bien celui de l'annonce de l'Évangile. Et on voit que la présence aux pauvres s'accompagne très souvent dans l'histoire de la compagnie, sur une réflexion sur des réformes qui permettraient d'éviter les dommages causés par des conditions de vie dégradantes. Il me semble donc qu'avec ces textes, la compagnie finalement est fidèle à elle-même et à son histoire, et que d'une certaine manière, elle explicite des pratiques qui ont été les siennes dès le commencement. Voilà. Alors, conclusion. Quels fruits ces orientations donnent-elles? Eh bien, on peut remarquer que dans la plupart des pays où elle est présente, la compagnie est vraiment engagée dans un travail de promotion sociale, surtout par le biais de l'éducation et de l'accès à la culture. On l'a vu à travers les exemples que vous avez donnés. C'est une note vraiment importante. Le réseau Fe y Alegria en Amérique latine scolarise énormément de j'ai plus le chiffre exact, mais c'est plus d'un million de jeunes qui sont scolarisés dans ce réseau-là. Hein. Et c'est souvent dans des coins vraiment perdus, hein, là où l'asphalte s'arrête. À ce moment-là, on commence à faire des écoles Fe y Alegria. Hein. Voilà. En Inde aussi, il y a un rôle très important des jésuites dans l'éducation. Hein. Voilà. Alors, en même temps, alors une question qu'on pourra toujours se poser, et il me semble que c'est sain de se la reposer, on pourra se demander toujours qu'est-ce qu'il en est de ce projet de faire du service de la foi et de la promotion de la justice l'élément intégrateur qui unifie tous nos ministères. Parce que ça, c'est un extrait aussi, c'est un extrait aussi de la 32e Congrégation Générale. Et ben, sans doute que sur ce point-là, on aura toujours à progresser, nous les jésuites. C'est-à-dire que ça veut dire justement que ce qu'on vit avec les personnes très pauvres, ça ne devienne pas comme un appendice de la mission des jésuites, mais que ça circule et que ça puisse irriguer toutes nos autres missions. Ça, c'est pas facile, faut le reconnaître. Hein. En même temps, par exemple ici, au Centre C, moi je suis vraiment très heureux de voir comment... on peut travailler, par exemple, comme théologien, comme Laure, ou comme on est plusieurs à travailler dans ce sens-là, avoir ce qu'on peut recevoir pour notre foi de la part des personnes très pauvres. Et comment, disons, une écoute attentive de ce qu'ils disent nous conduit à reformuler ou à revisiter certaines grandes questions théologiques. Voilà. Et là, je trouve qu'on a ce travail d'irrigation qui peut se produire jusque dans un lieu comme un lieu académique où on fait de la philo et de la théologie. Mais c'est vrai que quand on travaille avec les élites, je crois que la tentation, elle sera toujours de rester dans une certaine fascination pour les puissants, avec le risque de se laisser emporter par des logiques qui meuvent le monde et de manquer de liberté par rapport à elles. Voilà. Et c'est ici que l'enracinement avec les pauvres est vraiment crucial, je crois, pour la compagnie. Et plus ce lien-là, cet enracinement sera vivant, plus le travail qu'on fera avec les élites sera aussi fort et pertinent. Voilà. Et je crois qu'on peut dire l'inverse. Quand on oublie ce lien vivant avec les personnes qui vivent de plus grande précarité, eh bien, le travail qu'on fait avec les élites risque d'être aussi moins vigoureux. Et moins fort, moins marqué par l'Évangile, je crois. Voilà. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour votre attention. Et maintenant, je crois qu'on a du temps pour causer.
Je
je dis un petit mot de conclusion partielle et puis nous aurons un temps d'échange. Donc nous venons d'entendre trois témoignages d'engagement auprès des pauvres dans les trois continents, dans les Amériques en Haïti, en Afrique au Cameroun, en Asie au Timor oriental. Merci beaucoup, beaucoup à tous les trois pour ces témoignages très forts que vous avez partagés, non seulement sur les activités vécues, mais aussi combien ça vous a transformé et ça continue de transformer vos vies actuellement. Puis nous avons écouté Étienne, qui nous a exposé à grands traits la manière dont la tradition jésuite a décliné l'option pour les pauvres. Je retiens en particulier la double dynamique d'engagement, engagement de proximité avec les plus marginalisés dans des apostolats de plein vent, et puis engagement avec les élites pour les former, pour peser sur la manière d'organiser le vivre ensemble, inciter à changer les règles du droit pour que cela aille vers plus de justice. Merci beaucoup, Étienne. Avant d'ouvrir l'espace pour un temps d'échange, je voudrais dire quelques mots sur l'option pour les pauvres. S'il y a une forte tradition d'engagement avec et pour les pauvres chez les jésuites, cet appel à vivre une option pour les pauvres concerne en fait tous les baptisés, quelle que soit leur tradition spirituelle. Le pape François, dans l'exhortation « La joie de l'Évangile », a consacré toute une section du chapitre 4 à l'intégration sociale des pauvres dans la manière de penser l'évangélisation. Je vous propose de nous arrêter à quelques paragraphes où il fonde cette option pour les pauvres et où il décline la manière dont cette priorité est appelée à se décliner. Excusez-moi. Au numéro 186, le pape souligne que c'est de notre foi au Christ qui s'est fait pauvre et toujours proche des pauvres et des exclus que découle la préoccupation pour ceux qui sont les plus abandonnés de la société, donc un enracinement christologique. Dès lors, chaque chrétien et chaque communauté sont appelés à être instruments de Dieu pour la libération et la promotion des pauvres de manière à ce qu'ils puissent s'intégrer pleinement dans la société. Au numéro 187. Et ça va supposer, de notre part, de devenir à tout attentif pour écouter le cri du pauvre. Écouter ce cri du pauvre, c'est participer à la volonté de Dieu, à son projet, c'est communier à son désir et contribuer à y donner corps au cœur de ce monde. Dans le numéro 188, le pape souligne que cette mission d'attention spécifique aux plus pauvres n'est pas réservée à quelques-uns, mais que nous tous, tous les baptisés, nous y sommes convoqués. Et selon lui, la priorité donnée aux pauvres prend principalement deux figures. Je le cite, « Tout d'abord, la coopération pour résoudre les causes structurelles de la pauvreté et promouvoir le développement intégral des pauvres. Et deuxièmement, les gestes simples et quotidiens de solidarité, de fraternité avec ceux qui vivent la misère. On retrouve là les deux orientations indiquées par Étienne. Agir sur les structures en interagissant avec les élites et se faire proche des plus pauvres par une proximité quotidienne. En fait, il s'agit, dit le pape, de créer une nouvelle mentalité qui pense en termes de communauté, de priorité de la vie de tous sur l'appropriation des biens par quelques-uns. Nous sommes ainsi tous convoqués à entrer dans cet itinéraire de conversion à une nouvelle mentalité, une nouvelle représentation de ce qu'est la communauté humaine. Pour cela, à la manière de Dieu et à la suite du Christ, il nous est bon d'écouter la clameur des pauvres, de nous intéresser à leurs rêves et à leurs aspirations, pour ensemble inventer une manière inédite de faire corps, de faire communauté, pour devenir un « nous » où chacun est attendu, désiré, estimé, et où il manque s'il n'est pas là. Pour vivre cette conversion personnelle et collective, nous sommes tous concernés, quelle que soit notre tradition spirituelle et notre état de vie. C'est notre baptême en Jésus-Christ qui nous entraîne à marcher à sa suite et à devenir comme lui, ami des pauvres et des petits. Voilà pour ces quelques mots, pour élargir le spectre à toutes les traditions spirituelles. Et maintenant, nous allons avoir un bon temps d'échange. Nos trois amis vont monter au pupitre, moi je vais en descendre et je vais me promener avec un micro pour vous donner la parole. Alors, la parole est à qui veut. Peut-être qu'on prend deux, trois questions et puis on leur donne la parole pour répondre et puis deux, trois autres questions.
Bonjour. Par rapport à la première intervention, en fait, j'ai envie d'en savoir plus. Donc, vous avez dit que la mission cherchait à transformer la personne et la communauté. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, transformer la personne et la communauté ? Vous avez dit que ça vous avait apporté une autre vision de la vie, de la mort, le fait de vivre avec l'autre, voilà, d'avoir que ça soit un peu plus concret, voilà, et que vous puissiez illustrer, voilà, ce que vous avez dit. Voilà, ça vous a appris ce que c'est que l'amour, la haine, voilà, d'illustrer tout ça. Merci.
Merci à tous pour ces présentations et ces exposés synthétiques et clairs. Une question, j'ai été frappé sur un point dans l'utilisation, dans les exposés que vous avez faits les uns comme les autres, vous, pour désigner les pauvres, vous dites les pauvres, ce qui est d'une logique totale. Sauf que quand on écoute les discours en dehors de cette enceinte, les discours un peu plus technocratiques ou les discours provenant des collectifs, on utilise très souvent l'expression des personnes en situation de pauvreté. Et comme les mots ont un sens, moi je me demande, est-ce que vous avez éventuellement un éclairage par rapport à ce décalage d'expression ? Est-ce que c'est du jargon technocratique ? Est-ce qu'on a peur, en utilisant une autre expression, d'appeler les situations par le mot exact, est-ce que c'est une expression franco-française ? Enfin, qu'est-ce que vous inspire ce décalage qu'on entend souvent ? Moi, je me suis toujours dit, c'est étonnant parce que pour parler des riches, on parle jamais des personnes en situation de richesse, on dit les riches. Mais là, pour les pauvres, on parle systématiquement, surtout dans les collectifs, et je les incrimine pas, hein, mais surtout dans les collectifs d'assistance, on parle souvent de personnes en situation de pauvreté. Merci d'avance pour votre réponse.
Une troisième question.
Je lisais récemment l'autobiographie de Ignace de Loyola. Et ce qui m'a frappé, c'est effectivement la proximité avec les pauvres. Il y a constamment des pauvres à côté de lui qui lui réclament de l'argent. Il est toujours fauché. Et puis, donc, il y a aussi un rapport un peu de confrontation avec le pouvoir ecclésial, avec l'Inquisition, qui vient fouiller un peu, pour savoir si ce qu'il enseigne, c'est-à-dire les exercices, est-ce que ça correspond à ce que tolère l'Inquisition. Il y a là quand même quelque chose que je trouve très fort. Et lorsque Ignace est en grande difficulté, lorsqu'il monte, lorsqu'il est à Jérusalem, il monte au Mont des Oliviers pour aller vérifier où était le pied gauche et le pied droit du Christ, il est vraiment. Il dit que le Christ est avec lui. Non. Alors je voudrais savoir si vous partagez cette expérience quand votre vie traverse, accompagne celle des plus pauvres.
Merci pour les questions. Je vais commencer par la première. Qu'est-ce que cela veut dire transformer la personne et transformer la communauté? On sait quand on est dans la situation de pauvreté ou quand on est pauvre, on est fragile. Il est très facile d'être violent ou d'avoir d'autres problèmes et qui pourraient nuire soit à d'autres personnes ou soit à la société tout entière. Quand on parle de transformer ces gens, c'est à travers l'éducation. Les mettre dans une ligne, là où ils comprennent qu'est-ce que c'est la vie, là où ils comprennent le sens de la solidarité, le sens du vivre ensemble, le sens d'accompagner, au lieu de prendre le chemin de la violence pour résoudre leurs problèmes. Parce que en Haïti, par exemple, là où j'ai vécu, j'ai grandi, j'ai fait beaucoup d'expériences, il n'y a pas un état des droits, entre parenthèses. Parce que si j'ai fait quelque chose, ou si j'ai commis un délit en France ou dans la rue quelconque, je sais que la loi m'attend. Et il y a une force politique ou une force publique ou une force d'État qui peut faire exercer la loi sur ce délit, sur cette violation de la loi. Mais en Haïti, c'est un peu contraire ou un peu différent. Les gens peuvent tout faire dans des quartiers ou dans des zones, les gens peuvent tout faire. Je pourrais dire, on peut rencontrer dans certains endroits le règne de la violence. Mais les petits-enfants qui vivent dans des situations, dans la famille, situations de pauvreté ou dans le quartier, peuvent devenir des violateurs ou des gens vraiment très violents. Donc, on met l'éducation à la base pour transformer la vie de ces personnes, la vie de ces gens, pour qu'ils soient très humains et être capables de se solidariser et de vivre ensemble. C'est pour cela qu'on organise des séances de formation, des rencontres, des activités en commun. Et on, par exemple, dans le PowerPoint que j'ai mis, on a vu un groupe qui était en train de travailler dans un sentier. Et ce sont des gens qui travaillent pour pouvoir favoriser la circulation. Les enfants qui marchent 2 heures à 3 heures pour arriver dans un centre éducatif, pour pouvoir trouver quelques espaces pour marcher. Parce qu'il n'y a pas de route ou il n'y a pas d'autoroute, il n'y a pas de moyens vraiment pour fonctionner bien. Je ne sais pas si je réponds à la première question. Et je passe à la deuxième. Est-ce que je peux être plus clair par rapport à ma vision sur la mort, sur la vie, sur l'amour, etc.? Je crois que comme humains, nous ne faisons pas l'expérience de la mort. Et il y a des auteurs philosophiques surtout qui ont dit ça. Épicure en particulier, nous ne connaissons pas la mort. Nous faisons l'expérience de la mort des autres. Moi, je dirais, dans mon expérience auprès de ces gens, presque je faisais l'expérience de la mort. Si j'ai une fièvre, une grippe, quelque chose comme ça, je cherche le chemin de l'hôpital ou j'appelle un médecin, je ne sais pas. Mais quand on est au milieu de ces gens, qui n'ont pas d'hôpital, qui n'ont pas de service public, qui n'ont pas d'infrastructure et qui sont malades. Dans des situations très difficiles, par exemple, une femme enceinte qui va accoucher, qui habite à 3 heures d'un centre de santé, qui n'est pas un hôpital, d'un centre de santé, il faut le transporter dans des brancards pour arriver à faire l'accouchement, parfois qui peuvent mourir avant d'arriver. Ça nous rapproche vers la mort, vers la situation de la vie, vers la situation de la mort. Qu'est-ce que c'est? En rencontrant un petit enfant de 5-6 ans qui se lève très tôt dans la matinée, vers 4-5 heures, manger quelque chose, s'il y en a, prendre la route pour aller dans un centre, pour aller à l'école. Il faut traverser des rivières, il faut monter des montagnes pendant des heures pour arriver, commencer les cours avec sommeil, fatigué. Les cours vont terminer 14h, 15h. Il doit reprendre la route pour retourner à la famille. Très fatigué, il pleut. Il doit marcher sous la pluie. Arriver à la maison 18-19h, il faut étudier. Ce sont des expériences qu'on ne pourrait pas même expliquer, mais tout en étant vers ces réalités ou dans ces genres de réalités, on voit la vie avec une autre vision différente, je pourrais dire. Donc moi, tout cela me rapproche vers la vie, vers la mort, vers ce qu'on est comme bien-être. Et comment on peut avoir possibilité de créer son confort malgré ce n'est pas un confort. Et voilà, c'est ça pour moi, une autre vision de la vie, une autre vision de la réalité, qui n'est pas seulement je suis malade, je cherche là où il y a un médecin, j'appelle, je prends un rendez-vous et je pars à l'hôpital. Mais essayer de comprendre aussi quand on est malade et on n'est pas capable d'aller à l'hôpital parce qu'on ne trouve pas un hôpital, qu'est-ce que cela veut dire? Merci. Je ne sais pas, peut-être Étienne qui va répondre à la deuxième question qui parle de...
Ah oui, sur le terme de pauvre. Hein. Moi, ce que je dirais par rapport à cette question-là, c'est que ce qui me paraît le plus important, c'est de jamais réduire une personne aux problèmes qu'elle peut avoir, aux difficultés qu'elle peut rencontrer. Et en ce sens-là, je comprends tout à fait qu'on soit mal à l'aise avec cette appellation « les pauvres » et qu'on en préfère d'autres. Hein. Cela dit, si on en cherche d'autres qui cherchent tout en voulant sans cesse rappeler les difficultés, on risque toujours de se trouver confronté à la même difficulté. Hein. Alors de parler de personnes en situation de pauvreté ou de précarité, ça permet de distinguer la personne de la situation. Alors que quand on dit les pauvres, c'est comme si on l'identifiait à sa situation. En ce sens-là, c'est sans doute mieux, oui, je pense. En même temps, dans ce que vous disiez, c'est important de reconnaître la réalité. Ça, je pense, c'est un autre aspect. C'est-à-dire, c'est pas en supprimant le terme pauvre qu'on supprime la pauvreté. Et on pourrait même, à la limite, la masquer. Or, il y a bien des personnes qui vivent dans des situations réelles hyper compliquées, hyper difficiles, qui les amènent, je rejoins ce que vient de dire Marius, à être sans cesse confrontées à des impossibilités de vivre, à quelque chose comme la mort. Voilà. Il faut bien des mots quand même pour parler de ça. Et du coup, je pense que à la fois, c'est drôlement important de ne pas identifier les personnes à des problèmes, mais en même temps, c'est important de respecter, d'avoir du vocabulaire, des expressions pour dire la réalité que vivent certaines personnes. Hyper dur, très très dur. Voilà. Alors à tout ça, j'ajouterais encore une autre chose, c'est que, disons, quand on parle de pauvreté, tout ça, ce qui peut nous gêner aussi, c'est qu'on peut avoir l'impression, et c'est pas que des impressions, c'est que ça crée une sorte de dissymétrie entre la personne pauvre et moi. Voilà. Là-dessus, moi, je dirais, le plus important, c'est pas qu'il n'y ait pas de dissymétrie, parce que je pense que dans toute expérience humaine, il y aura des dissymétries. Le plus important, c'est que les dissymétries ne soient pas toujours les mêmes et qu'elles ne fonctionnent pas toujours dans le même sens, mais qu'elles puissent marcher aussi en sens inverse. Et c'est-à-dire, par exemple, que je puisse à un moment donné me retrouver en position d'apprendre de la part de ces personnes en grande précarité. Voilà. À ce moment-là, la dissymétrie n'est plus bloquée uniquement dans un sens. Et c'est là que ça devient vraiment... il se passe vraiment quelque chose à ce moment-là. Voilà. Bon, voilà en très gros ce que je dirais. Et il y avait la troisième question qui était sur l'expérience spirituelle qu'on peut vivre.
Je ne sais pas si j'ai bien compris la question.
Moi, ce que j'ai compris, mais vous pourriez dire, Ignace de Loyola, à certains moments, certains épisodes de sa vie, il vit des expériences d'humiliation lui-même. Or, c'est aussi des expériences très fortes de présence du Christ. Et du coup, votre question, c'était, est-ce qu'au contact, enfin, je ne sais pas si j'ai bien compris, mais est-ce qu'au contact, dans le chemin fait avec des personnes elles-mêmes souvent humiliées, vous avez vécu quelque chose de la proximité du Christ ? Francisco.
Alors, ça c'est... Oui, je pense que c'est... Ouais, ça c'est... C'est quand même naturel, je crois. Peut-être, je donne un exemple, c'est plus facile. Pour moi, c'était comme ça que j'ai vécu. Quand je suis arrivé, les gens m'appelaient Malay. Malay, ça veut dire étranger. Donc, j'étais quelqu'un étranger, complètement en dehors de la réalité, de leur réalité quand même. Donc, et après, j'ai appris la langue, j'ai appris la culture et tout ça. Ils ont changé, ils ont commencé à m'appeler frère, frater. Ça veut dire frère. Et pour moi, ça a été vraiment comme une sorte de changement d'identité. Donc, de partager quelque chose que c'est le plus profond qu'on a vraiment, c'est l'identité. Et d'entrer dans une sorte d'un monde, d'apprendre à écouter, apprendre à voir, à contempler la réalité, et à vivre l'évangile comme ils vivent, voilà. Donc, ça a changé, pas seulement, disons, mon identité à ce moment-là, mais aussi mon regard sur ma propre expérience de Christ, là, dans ce contexte propre. Parce que j'ai commencé à appartenir pas seulement à leur culture, mais aussi à leur foi. Alors, ce que disait Marius par rapport à la mort et tout ça, j'ai vécu une chose un peu différente, mais je crois que c'est quand même un signe de cette expérience proche de Christ. Parce que là, la mort est un peu partout, non? Parce que les gens, le Moyen Âge, l'espérance de vie, voilà. Là, c'est comme 60 ans ou quelque chose comme ça. Il y a beaucoup de jeunes qui meurent, voilà. Donc la mort est un peu partout, comme a dit Marius. Mais quand même pour moi, après avoir cette expérience de comprendre un peu plus leur foi, je n'avais pas peur de la mort, voilà. Ici, j'ai peur de la mort. Je suis chrétien, mais quand même humain en même temps. Mais là, non. Je pense que c'est une grâce. Il y a quelque chose de grâce là, de don. Mais en même temps, c'est quelque chose de la contemplation de la réalité. C'est quand même ça, c'est comme ça même. C'est juste, c'est bon. Il faut quand même écouter la réalité, voir les choses avec une bienveillance que tout cela vient de Dieu. Parce qu'ils vivent comme ça. Donc l'évangile, on peut presque toucher là. On peut presque toucher. Ils sont vraiment, sont plongés dans leur culture. On peut partager cette sensibilité évangélique. Et même, ils sont des gens qui ont perdu leurs parents, les enfants dans la guerre, tout cela. Donc, leurs blessures, on peut dire, sont vraiment des lieux de grâce. Et j'ai pu toucher ça d'une certaine façon. C'est pour ça que je peux dire, quand j'étais là, je n'avais pas peur de la mort. Mais après, ici, j'ai un peu perdu ça, c'est pas cette sensibilité. Donc, voilà, le Christ est toujours là, le Christ crucifié est toujours présent, mais quand même, il y a une bienveillance par rapport à la vie et à la mort qu'on ne trouve pas ici. Donc, voilà, c'est moi, mon expérience. Mais c'est une grâce quand même, c'est pas une chose qu'on peut vraiment... On peut chercher, mais quand même, c'est une grâce, je crois.
Peut-être s'il faut ajouter quelque chose à ce que Francesco vient de dire.
Ah oui.
Alors, je dirais, notre proximité avec les plus vulnérables ou bien en situation de vulnérabilité peut nous aider aussi à vivre concrètement l'Évangile et nous donner une certaine conviction, surtout dans nos actions que la présence de Christ est là. Pour moi, comme je disais pendant ma présentation, l'expérience avec les plus vulnérables nous aide parce que c'est dans de telles circonstances que l'Évangile vraiment se réalise concrètement dans nos cœurs. Et on doit vivre ces expériences telles que le monde nous les présente et non selon nos rêves. C'est aussi une certaine pauvreté personnelle d'accepter que ces expériences soient comme ça dans notre vie. Et en même temps, en lien avec l'expérience de Saint-Ignace, on peut aussi dire que la proximité avec les plus vulnérables peut vérifier aussi, peut nous aider, avec toute prétention gardée, peut nous aider à vérifier l'authenticité de notre proximité avec Jésus. Voilà un peu ce que je veux ajouter sur ce que Francesco a dit. Merci.
La question serait la suivante. Comment avoir un rapport vrai avec les pauvres en ne les idéalisant pas, et surtout pas, je dirais, ou sans vouloir simplement se donner bonne conscience?
Une petite question qui n'est pas forcément facile, mais j'ai été marqué, moi, dans la première conférence, enfin, le jour de la réception du rapport Sauvé, je suis désolé de parler de ça, mais vous verrez le lien, par justement ce que M. Sauvé disait, en disant ce qui nous a beaucoup marqué, c'est que il nous a fallu peu à peu mettre les victimes à la première place. Enfin, il le disait beaucoup mieux que ça, mais c'était très fort dans l'expérience qu'eux-mêmes dans la commission avaient vécu, de se rendre compte que c'est à ça qu'ils en venaient, et qu'il y avait quelque chose d'évangélique d'ailleurs à avoir été conduit à ça. Enfin, il en a parlé à un moment. Et en même temps, ce qu'on a identifié, c'est les conditions structurelles qu'il fallait pour qu'il puisse être effectivement mis à la première place. Et je trouvais que c'était une belle question par rapport aussi à toute proportion gardée, ce désir évangélique de pouvoir mettre les pauvres à la première place. Et je me demandais aussi, du coup, peut-être vous trois, dans les expériences dont vous témoignez, qu'est-ce que vous sentez comme obstacle en nous ou dans les manières dont vous sentez que les choses sont organisées dans la société, voire dans l'Église, voire dans la compagnie de Jésus. Qu'est-ce qui freine notre capacité à y accéder à cette parole des plus pauvres et à la mettre en premier?
Oui, moi j'avais une question sur... parce qu'à la fin, Étienne, tu as parlé des deux figures. Agir sur les structures et puis en même temps des gestes simples et quotidiens de fraternité avec les plus pauvres. Et je me demandais, est-ce que c'est séparé, enfin, il y a une dichotomie, ou est-ce que aussi de l'expérience qu'on peut avoir avec les plus pauvres, ça donne des leviers pour agir sur les structures? Enfin, je me demandais comment ça se vivait dans la compagnie, s'il y avait des exemples que tu pouvais donner.
Même si je vais essayer de répondre à la première question, mais peut-être ça concerne aussi mes collègues. Et moi, je dirais, pour avoir un rapport ou pour être vrai avec les pauvres ou les gens vulnérables comme ça, la première chose à faire, c'est être vrai à soi-même. si on n'est pas vrai à soi-même, on n'arrive pas à être vrai à ces gens. On peut même arriver à une certaine situation où on se présente comme quelqu'un qui exploite les gens. Et quand on arrive dans ces milieux, ce n'est pas facile. Sur le plan matériel ou économique, les gens sont dans le besoin. On ne peut pas tout satisfaire. Parfois, on a l'envie, on a le désir d'aider, de faire. C'est vraiment un problème. Mais il faut être clair et vrai avec les gens quand on arrive. On va faire ensemble. On a ça, voilà. C'est ce que nous pouvons faire. Ça, c'est notre limite. On est vrai. Vrai dans ce qu'on a dit aux gens, pour qu'on ne soit pas des menteurs ou des gens qui changent de parole à tout moment, mais en même temps de les actions. Par exemple, moi, je vais prendre un exemple. Je me rappelle qu'un jour, je suis arrivé dans l'une de ces écoles et il y avait une grève des professeurs. Les professeurs ne voulaient pas travailler pendant la semaine parce qu'il y avait un problème de salaire. Et quand on voit les situations comme ça, payer les professeurs, c'est froid et joie qui s'organisent, c'est pas toujours facile. Et j'ai réuni les professeurs, j'ai présenté la situation, ils savaient déjà. Mais à un certain moment, ils me disaient, ça c'est un langage de candidat. Quelqu'un qui vient pour faire sa campagne électorale. Et quand on vous donne une réponse comme ça, ce n'est pas facile de rebondir, de continuer. Mais j'ai dit aux gens, écoutez-vous, moi, je suis là juste pour vous servir. Je ne suis pas de la zone. Certainement, je suis là parce que je suis jésuite. Mais avant d'être jésuite, et c'est vrai, je faisais une expérience dans des situations comme ça. Je travaillais pour une institution avant d'être jésuite, c'était la même chose. Et je dis, mais à ce moment-là, j'avais un salaire et mon salaire, c'était à moi de décider. Mais je travaille pour l'Évangile, je dirais. Et j'amène les gens à prendre conscience de la réalité, de tout ce que nous pouvons faire. Ils ont compris, ils ont repris le travail, ils ont travaillé. Et jamais plus de grève dans l'école pendant toute l'année. Je crois que ce genre de choses, c'est la manière de vivre avec les gens, d'approcher les gens, de ne pas avoir plusieurs paroles, langages pour parler aux gens, sinon être vrai avec soi-même et avec les gens. Je ne sais pas si vous allez dire quelque chose.
Oui, sur la même question, être vrai avec les gens, comme Marius l'a dit, et en même temps, moi, j'ajouterais aussi la manière de procéder. Nous, comme chrétiens, notre action ou ce qu'on pose comme action envers les plus vulnérables doit être nourri de l'amour et l'amour du Christ. Et c'est cela qui différencie notre action de la philanthropie, des ONG et autres. Donc, au centre de notre action, il faut toujours l'amour du Christ pour parvenir à poser un acte qui ne puisse pas être seulement notre idéologie personnelle ou puisque tout ne doit pas être comme on veut, mais il faut qu'on le pose simplement en ayant conscience que nous le faisons par amour du Christ.
Peut-être même que cet amour du Christ, on n'y arriverait pas.
Voilà. Voilà. Voilà.
Non, c'est justement ça. Les pauvres sont les icônes de Christ, en fait. Icônes. C'est comme ça qu'on peut dire. C'est la seule façon de faire les choses. Sinon, nous sommes comme des... C'est pas... C'est une sorte de volontariat. Pieux. une sorte de volontariat pieux, voilà. Et ça, c'est pas vraiment notre façon de faire les choses. C'est ça. Donc, qu'est-ce qui nous freine à répondre à cette question? Je pense que, tout d'abord, notre propre arrogance. Voilà, nous comme jésuites, souvent, on est trop pressés à faire les choses et à parler. On veut toujours dire quelque chose. On a toujours quelque chose à dire. Mais il faut avant, il faut vraiment être disponible à écouter les gens. Être là, simplement un peu comme ça. J'ai appris ça un peu pendant ma régence, quand j'étais à Timor, parce que avant de dire quelque chose, il fallait manger avec les gens, fumer, et après on peut parler. Après, on peut, ils utilisent une expression, c'est une belle expression, c'est raconter l'histoire. Ils n'utilisent pas l'expression parler les uns avec les autres, c'est on raconte les histoires. On raconte notre identité et tout cela, etc. Même l'évangile, voilà, tu vois. On raconte les paraboles, on raconte les histoires de Jésus, tout ça. Mais parfois on arrive, on n'est pas vraiment disponible à écouter ça, à raconter des histoires. On faut faire des choses, voilà. On a une sorte d'arrogance, je ne sais pas expliquer ça. Occidental ou je sais pas quoi, mais c'est ça, donc il faut apprendre à vraiment écouter, voir, voilà, dans les pauvres le visage du Christ, et comme ça apprendre du Christ aussi comment est-ce qu'il faisait, et être simplement avec eux, et après on peut faire des choses. Mais je pense que c'est pas, peut-être c'est, parfois, c'est notre propre formation comme jésuite, que c'est très longue et on étudie beaucoup et tout cela. Et ça nous donne une sorte d'arrogance intellectuelle. Voilà, et ça ne marche pas. À mon avis, c'est ça.
Par rapport à la question que posait Sylvie sur agir sur les structures et la proximité avec les personnes en grande précarité, est-ce que ça marche ensemble ou pas? Alors, ben, moi, je dirais, c'est exactement dans la même ligne de réponse que Francisco. C'est-à-dire que, ben oui, j'espère que c'est connecté. Parce que la tentation, comme tu disais, on veut toujours aller trop vite. La tentation, c'est de penser que nous, on a les solutions et qu'on va pouvoir résoudre les choses et faire ce qu'il faut pour que tout aille mieux. Voilà. Et quand on fait marcher les choses comme ça, ben en général, ça ne marche pas du tout, justement. Voilà. Et du coup, ça demande quand même ça, de lutter contre une tendance qu'on a sans doute tous, mais peut-être plus encore les jésuites. C'est le tendance d'être trop sûr de ses propres pensées, etc. quoi. Et alors, disons, moi, ce que je trouve... Ça répond aussi un petit peu à la question de Benoît, là. Pour participer régulièrement à un groupe de la pierre d'angle, donc avec des personnes en grande précarité, où on lit l'évangile ensemble, etc., etc., je m'aperçois qu'on a des tas de réflexes, des manières de penser spontanées qui nous viennent en tête, qui s'imposent presque à nous, pour interpréter la situation des personnes, interpréter ce qu'elles disent, etc., mais qui sont les nôtres, voilà. Et qui permettent pas, qui donnent pas un accès à ce monde vraiment autre qu'est le leur. Voilà. Du coup, ça demande quand même de mettre en suspens ces réflexes-là qui nous viennent. C'est pas si facile que ça, parce que les réflexes, bah, ça revient toujours, en fait. Et ils ne meurent pas comme ça. Hein. Mais je pense qu'en tout cas, il y a vraiment une attention de ce côté-là qu'on peut avoir. Et qui permet du coup d'entendre quelque chose de la part de ces personnes.
Voilà. Voilà, nous allons nous arrêter là. Merci beaucoup à vous tous pour votre présence. Merci beaucoup à tous les quatre pour votre contribution et vos partages. Et puis, je voudrais vous faire trois invitations au terme de la soirée. Une première invitation, la librairie Brunet est au fond et pourra vous vendre des livres d'Étienne, Les Jésuites et les Pauvres. Une deuxième invitation, la journée du 27 janvier sera une journée d'études sur le thème « Entendre la voix des plus pauvres dans le processus synodal ». Ce sera ici au Centre Sèvres, en présentiel ou en distanciel sur Zoom. Donc vous êtes cordialement invités à cette journée. Et puis la troisième invitation, nous avons préparé un petit feuillet programme de toutes les propositions de la chaire. Vous pourrez y trouver aussi la journée d'études organisée par la Fondation Rodin. Donc, nous avons Xavier qui est le, je ne sais jamais quel titre, coordonnateur, président. Voilà, enfin bon, de la Fondation Rodin qui nous fait la joie d'être là avec nous. Donc vendredi prochain, il y a une journée de la Fondation. Vous pouvez encore vous inscrire, je pense qu'il doit rester quelques places. Tout juste, bon, tout juste. Voilà, merci beaucoup à chacun. Très bonne soirée. Il y a des feuillets au fond si vous voulez. Et puis rendez-vous peut-être le 27 janvier ou le 20 octobre l'année prochaine pour la prochaine soirée de la chaire. Merci beaucoup à tous.